Bonsoir, c'est Lise Gutmann. Vous écoutez Radio J, il est 22h. Qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, désormais l'un des administrateurs de l'ÉCUJ. Bonjour Jean-François.
Oui, heureux retraité. Bonjour Lise.
Oui, on le voit partout, mais il est heureux retraité. Principal dans la vie, c'est d'être heureux. Alors, nous sommes à l'aube de ce fameux festival Confluence, dont on parle déjà beaucoup sur Radio J, et qui débute donc ce soir, que Gadi Bghi nous avait annoncé ces dernières semaines. Alors, quels sont les premiers événements marquants du programme ?
Alors oui, Lise, entrons dans le vif du sujet avec des événements qui vont donner à celles et à ceux qui n'ont pas participé aux deux premiers festivals le goût de ce que cela représente. Et une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir le bal avec les événements de l'Institut universitaire Elie Wiesel intégrés à Confluence pour ne surtout pas les oublier.
Oui, Confluence, c'est Confluence, on commence par les lundis de Wiesel.
Donc, on a Jérémy Gage, ce sera le lundi 20 janvier de 19h à 20h30, les Juifs de Tunisie face au fascisme et au nazisme dans les années 30, les Juifs de Tunisie qui sont sous protectorat français depuis 1881, qui ont affronté une montée de l'antisémitisme alimentée par le fascisme italien et le nazisme.
Et c'est un cours qui fait partie du certificat d'études israéliennes qui démarre également ce lundi, juste avant le lundi de Wiesel, Jean-François.
Absolument, ils y sont compatibles, on peut suivre l'un et l'autre, ils s'enchaînent. Et donc, je rappelle que les certificats se déroulent sur 2 ans. Là, on est dans le cas du certificat des études israéliennes et on en profite pour suivre le cours de Frédéric Chillot. Alors, il aura commencé le 20 janvier, le 27 janvier, il se poursuit, le 3 et le 10 février, il se poursuit, de 17h à 18h30 en Zoom et en replay, briser l'encerclement, les relations entre Israël et le monde arabo-musulman, des premières alliances secrètes aux accords d'Abraham. C'est absolument passionnant et ça permet aussi de décrocher un petit certificat universitaire.
Ce qui est important.
Les Israelis studies, c'est une manière aussi de marquer à quel point on est attaché à Israël. Étudier un certificat sur l'histoire d'Israël, sur la géographie d'Israël, sur l'économie d'Israël, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, plus que intellectuellement, c'est un engagement.
Exactement. Alors, quand on dit aux couleurs de la Méditerranée, ce n'est pas qu'au sens figuré. Il va y avoir également des couleurs à l'ÉCUJ dans le cadre de Confluence.
Alors, on a la chance, et je dis vraiment la chance, que Joseph Zrien, que tout le monde connaît dans la communauté juive de France,
qui a été, avant de faire son allié, un très grand représentant du FSJU.
Du FSJU et du CRIF.
Il et a du été CRIF, bien sûr. CRIF. Oui, oui.
C'est un militant. On le voit de temps en temps passer sur I24 pour donner des conseils.
Et son avis, oui.
Comme médecin. C'est un excellent médecin. En Israël, c'est mon médecin, donc ça tombe
bien.
Ah
oui.
Donc, Joseph Zrien fait des tableaux absolument splendide, aux couleurs de la Méditerranée. Ça se raconte pas à la radio parce que c'est très peu visible à la radio, au micro.
Il faut courir à l'ÉCUJ.
Il faut aller déjà voir sur le site un avant-goût de ses œuvres. Et quand on arrive chez lui à Tel Aviv, on est dans une maison qui est vraiment aux couleurs de la Méditerranée. Les bleus de la mer, les bleus du ciel, les ocres de la terre. Et les verts les forêts et agricoles. Et vraiment, ce vernissage aura lieu le 19 janvier 2025, c'est-à-dire dans quelques jours, à 17h. C'est le moment de prendre conscience de la beauté des paysages méditerranéens à travers des tableaux.
Voilà, et vu par Joseph Zrien.
Ouais, il est absolument Formidable.
Alors, le 22 janvier, il y aura un atelier avec Joserienne.
Non, alors l'atelier est avec Sandra Ankawa.
Oui, pardon.
Comme une fois par mois, mais là, ce sera, comme on le fait pendant toute cette période, pendant toute cette quinzaine, ce sera un atelier Art Night sur Confluence.
Voilà, donc, et aux couleurs de la Méditerranée. C'est
absolument.
Pour ça que j'ai parlé.
Oui, c'est vrai, il y a deux couleurs, voilà. Il y a deux événements aux couleurs de la Méditerranée. Une expo qui va durer tout le temps jusqu'à peu près mi-février avec Joserienne et une soirée Art Nights qui...
Avec Sandra Ankawa.
Qui voilà. Est dédiée à Confluence.
Alors, Confluence, ce sont donc des couleurs, mais il y a d'autres manières de donner de la couleur et des odeurs, et la musique aura, comme d'habitude à Confluence, une place de choix. Ainsi, je dis que le concert d'ouverture a lieu un jeudi. Nos habitués savent que Jazz à l'Écuge, c'est aux couleurs de la Méditerranée, je crois que c'est complet.
Ouais, alors je le donne, tenez, pour vous faire envie, comme ça vous
pour vous savoir ce qu'on a raté
de vous inscrire aux autres événements de Confluence.
Oui.
Oui, là on est sur Jazz and Maghreb, héritage croisé avec la Casbah Band, Jean-Claude Grenacia ensemble avec Jérémy Ababou, Hermon Mehari, Patrick Goraguer, une superbe quatuor pour ce Jazz à l'Écuge aux couleurs de la Méditerranée et aux sonorités de la Méditerranée.
Voilà.
Donc là, vous ne pouvez pas y être, mais ça vous donne aussi du goût pour vous dire, ah, les autres concerts, j'ai raté, je m'inscris tout de suite.
Oui, et ce que j'espère, c'est qu'ils le referont, parce que c'est vraiment à guichet fermé.
Ça va être un truc génial, purement génial.
Je pourrais pas y être, c'est très triste. Alors ensuite, le mercredi 22 janvier à 19h30, c'est une soirée, tenez-vous bien, BD à l'Écuge, animé par Rey Musicant et Léa Stanislas.
Ah là là, un thème de Johann Sfar, incroyable. Que faire des Juifs?
Il sera là, c'est son nouvel album.
Ouais, il sera là, il dédicacera. Les dédicaces dureront environ deux heures. Prévoyez, il y aura de quoi vous sustenter en attendant qu'il vous dédicace le livre. Donc c'est un truc absolument extraordinaire. Que faire des Juifs? C'est vraiment son combat aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de place en diaspora parce qu'il y a de l'antisémitisme. Les gens haïssent Israël. Ben moi, je pense que comme Johann Sfar, il y a des œuvres qui sont des combats et sa BD est un combat. Et il y aura bien sûr autour d'eux Rai Musicant qui l'interviewe et Léa Stanislas qui contribue à la préparation de cette soirée BD à l'Écuge. Je voudrais juste qu'on revienne sur un autre événement musical et tu as reçu Milena Kartofsky.
Alors,
on attend Milena Kartofsky souvent sur de l'Ashkenaz, sur du Yiddish.
Non, mais elle fait beaucoup
et
aussi.
Elle fait aussi sur...
Sur ses racines judéo-algériennes. Et là, elle va être avec deux musiciens fantastiques. Ça va être mardi 21
à 20h30.
À 20h30.
Alors moi, je vous dis
et
vraiment...
Et elle fait un atelier juste avant. Voilà, un atelier à 18h qui va permettre, en fait, au public qui peut venir plus tôt, d'apprendre à chanter certains piyoutim pour pouvoir chanter avec elle pendant le concert. C'est de l'interaction courésie.
Alors, devenez des païtanim et des païtaniotes,
voilà.
C'est-à-dire hommes et femmes, pour chanter avec Milena
et ses
des mélodies exceptionnelles et les musiciens, accompagnés par les musiciens. Et en général, c'est assez extraordinaire. On a déjà eu des ateliers de piyoutim et le public est très enthousiaste. Ils pensent que c'est un peu mystérieux, un peu magique, mais ils peuvent y participer. Et c'est ça qui fait la force de ce genre d'atelier suivi d'un spectacle. Ne manquez pas Milena, je vous le dis vraiment avec beaucoup de force.
Ouais, ça va être magnifique.
Ça va être exceptionnel, un vrai moment.
Alors au chant, donc, Milena Kartofsky-Ayash. À la guitare, mandole et banjo, Elon Berger qui arrive d'Israël. Et au canoun et au tar, Rafik Kassner, qui est d'origine algérienne et qui connaît très bien ce répertoire. Ça va être une très belle rencontre, Jean-François.
Absolument.
Et bien sûr,
absolument,
à l'Écuge, dans le cadre du festival Confluence. Et pour ceux et celles qui cherche Timis, qui cherche Tunis, pardon. Il n'y a pas besoin de quitter Paris. C'est en tout cas ce qu'affirme Sonia Medina avec la projection en avant-première d'un documentaire sur l'attachement aux origines des Juifs de Tunisie. Tout un programme, je te laisse en parler.
C'est à Paris qu'on découvre Tunis. Donc on a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Tunisie. La situation n'incite pas forcément ces Juifs de Tunisie à retourner en Tunisie.
Oui.
Mais ils peuvent trouver Tunis à Paris et passer un bon moment avec la projection du film, un échange après avec la réalisatrice Sonia Medina. Et ça va bien avec Confluence 2025, puisque on est encore sur les rives de la Méditerranée. Donc, c'est aussi, on a donc de la musique, des ateliers,
de la peinture, de la BD.
Voilà, de la BD. Et on a aussi projection de film. Confluence, c'est une sorte de programme complet, hein.
Voilà, sur les Juifs de la Méditerranée. Et moi, je rajouterais un mot. Je dirais que on commence à s'installer maintenant depuis quelques années dans le festival. Confluence, c'est aussi une transmission aux plus jeunes générations.
Absolument.
D'un patrimoine qu'on leur a pas toujours légué facilement.
Ou alors insuffisamment. C'est-à-dire, voilà. C'est montrer la diversité des cultures de la Méditerranée. Il faut pas oublier la partie qui est celle de la Grèce, de la Turquie, des Balkans.
Hein. Bien sûr.
Continuer ensuite le tour de la Méditerranée, passer par Israël évidemment, remonter ensuite vers l'Afrique du Nord pour ces cultures-là, et évidemment les traditions espagnoles qui sont très ancrées dans des communautés. Et c'est ceci que nous tentons chaque année de faire découvrir à des publics qui sont, faut le dire, de plus en plus nombreux sur les spectacles. Allez sur le site Écuge et inscrivez-vous maintenant parce que on est rapidement à guichet fermé et après vous direz zut, j'aurais vraiment voulu voir ça et je peux pas le voir.
Comme le concert de l'ensemble de Jean-Claude Grenassia,
absolument,
par exemple.
Tu as raison, absolument.
Voilà.
C'est ça.
Alors, pour tout ce programme, un site, Jean-François.
Le site Écuge, ECUJE.fr, il y a tout dedans, vous pouvez vous inscrire.
Voilà.
Sur tout.
Un téléphone pour se renseigner.
Le 01 53 20 52 52.
Et puis une adresse, c'est l'adresse de l'Écuge.
Le 119 rue Lafayette, décoré entièrement aux couleurs de la Méditerranée, notamment par les magnifiques tableaux de Jose Rienne.
On y court. Jean-François, merci beaucoup pour toute cette période riche en culture, riche en musique, riche en tout ce qu'on aime au cœur de l'hiver,
et
couleurs de la Méditerranée.
Et la semaine prochaine,
voilà.
On donne la suite du programme.
Génial.
Et continue après, évidemment, le jeudi 23, il y aura la suite.
Il y aura la suite. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio.
Avec
merci.
Toujours autant de plaisir.
Radio J, 15h-16h, Sarah Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi pour le moment culture de Radio J autour d'une personnalité.
Il y a une énergie qui se crée par l'amour du public.
Je pense qu'elle dirait quelque chose un petit peu éthéré comme ça.
En direct de 15h à 16h sur Radio J.
Israël, c'est quoi? C'est le corps des Juifs.
Radio J.
Take me out.
I'm the king.
Radio J.
Radio J.
Cette semaine dans l'actualité juive.
Radio J.
Et cette semaine, à la une de Actualité juive, Trump au Hamas, je vous promets, l'enfer. Laurent Cohen-Coudard, bonjour.
Bonjour.
Vraiment, l'enfer.
Vraiment,
il n'est pas encore là au moment où on parle.
Mais vous avez vu, Lise, qu'on a mis un point d'interrogation.
Oui, j'ai vu.
Donc c'est vrai qu'on s'interroge, je crois que même lui s'interroge en fait. Entre, c'est difficile de savoir d'entrer dans la tête
de
Donald Trump. Oui. C'est compliqué, c'est même dangereux, je pense.
Oui.
On l'a attendu, comme on a mis dans l'article intérieur, le messie américain. C'est venu un petit peu en plaisantant pendant la réunion de rédaction. On a dit c'est Machiar qui arrive, parce que c'est vrai qu'il y a une attente complètement incroyable. On a été déçus un petit peu des actions ou non-actions de Biden.
En même temps, là, on est en plein... Au moment où on parle pas du numéro d'ActuJ, mais on est en plein dans l'action de Biden, pour l'instant, quand même, au Proche-Orient.
En réalité, donc l'investiture de Donald Trump se déroulera lundi, 20 janvier, mais je pense qu'il est déjà entré en action depuis...
Beaucoup de choses
sont passées.
On en saura plus dans le numéro de la semaine prochaine.
Déjà,
voilà,
on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est sûr que voilà, il a une influence auprès de Benjamin Netanyahou.
Oui,
on
certain.
A vu, alors tout le monde a vu, on n'a pas pu en parler, on a commencé à faire un pré-article, puisqu'on boucle le mardi sur la libération des otages, des accords, c'était encore un petit peu flou à ce moment-là. Là, on en sait un petit peu plus. Certains sont contents que les otages rentrent à la maison, d'autres mécontents parce qu'on sait très bien qu'en face, ils sont d'ailleurs écrits victoire dans les rues de Gaza. Et ils vont se reconstruire quand on voit les échanges qui vont se dérouler contre des prisonniers, milliers de prisonniers avec du sang sur les mains. Ce sont des gens qui, c'est pas des gens qui vont faire teshuva, comme on dit, qui ont été gangrénés par cette haine.
Alors tout ça, on le trouvera dans Actualité juive. Alors j'aimerais que l'on parle de ce dossier, justement, ce dossier important autour de Donald Trump, parce qu'il est très bien fait, et je vais même prononcer un mot qui peut-être va vous faire frémir, il est très pédagogique, grâce à vous, on comprend les tenants, les aboutissants, en bref, la situation.
Je frémis.
C'est pas le cas de tous les dossiers politiques.
Je confirme, je frémis. Non, alors vraiment, vous merci Lise de me tendre cette perche, parce que c'est vraiment le mot auquel on tient. On fait pas la presse élitiste, on s'adresse vraiment au plus grand nombre. Et on part du principe que beaucoup peuvent ne pas savoir ce qui se passe, les tenants, les aboutissants. Donc on essaye vraiment systématiquement de
faire des articles.
Mais oui, alors déjà, comme je vous dis, à chaque fois, on a un journal papier qui est souvent lu Shabbat, et on hebdomadaire, on peut pas dans le factuel, l'information va tellement vite. Donc en réalité, on est obligé de faire des dossiers. Alors on a toujours, comme là, Uzi Rabi, qui est un spécialiste, on a des interviews, donc des experts, des analystes, etc., de la situation. On essaie de revenir, on a par exemple des papiers sur lesquels je me suis consacré, par exemple l'histoire, il faut connaître l'histoire, l'alliance entre les États-Unis et Israël. Donc depuis 48 et Truman a reconnu l'État d'Israël, et depuis ça a scellé une alliance. Et après, les présidents qui ont suivi, Eisenhower, Nixon, qui a eu comme secrétaire d'État Kissinger, et puis après évidemment Jimmy Carter, Clinton, et en fait tous les présidents américains ont, c'est un petit peu la quête du Graal, ont tenu à être qui va être celui qui va faire régner la paix au Proche-Orient. Voilà.
Oui.
Et donc, il y a un papier qui est consacré à ça. Donc vraiment, oui, dans tous les domaines, on essaie vraiment d'être le plus didactique possible.
Voilà, et vous l'êtes. Merci. Alors ça, c'est un point très, très fort. Un dossier également auquel vous avez très activement participé, ce sont les incendies à Los Angeles.
Oui.
Alors, en quoi on est vraiment concerné? On est concerné parce que vous faites une analyse du pourquoi, comment dans cette ville emblématique américaine, les feux ont pu se répandre autant. Moi, j'avoue que j'avais pas la réponse avant de lire dans Actualité juive.
Oui, alors il y a beaucoup de choses, effectivement. Comme vous dites, Los Angeles, ça claque aux oreilles.
Oui.
Et on se dit, mais comment ils ont pu ne pas prévenir? Je voudrais pas tomber dans la caricature. On parle beaucoup de wokisme dernièrement.
Oui,
mais
expliquez-nous le rapport.
Oui, il y a un article d'ailleurs sur la mer, Karen Bass.
Oui.
Aujourd'hui, on est malheureusement dans un monde où je dirais que les faveurs pour les minorités, des fois, priment sur les compétences. Je ne remets pas en question les compétences, par exemple, de Madame le maire, qui a été élue, qui est la première femme, élue en 2022. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas anti-féministe. J'explique juste que cette mère-là a montré toutes ses compétences. C'est-à-dire que tout le budget qui était...
Alloué,
exactement, à la prévention.
À la prévention.
Les pompiers, il n'y avait pas une goutte d'eau, il n'y avait rien. Entre parenthèses, elle est partie, on l'a prévenue en amont. les conditions climatiques, météorologiques, à les dégrader, qu'il peut y avoir des risques d'incendie, etc. On peut pas quitter le navire pour aller une fête au Ghana et revenir. Je sais pas si vous avez vu ces images d'interview par, je crois que c'est la BBC. Elle était bouche bée, n'avait pas de réponse. Donc aujourd'hui, pardon pour ce que je veux dire, on a élu une femme, c'est très bien si elle a les compétences. Mais s'il y a un homme plus compétent, mettons l'homme. Vous savez,
non, mais on est d'accord avec ça. Le truc, c'est que, évidemment, elle avait supprimé les subventions, qu'il n'y avait assez, il y avait moins de pompiers, il n'y avait pas assez d'eau.
On parle de 17,5 millions de dollars. Mais on parle d'une somme qui est conséquente, qui est là pour prévenir la sécurité. Elle a préféré allouer le budget à des choses qui sont, voilà, pour les défavoriser, etc. C'est très bien. J'ai pas dit qu'on laissait de côté les défavorisés. Attention, quand je dis que je suis pas féministe, ça veut pas dire que je suis anti-féministe. Je ne tombe pas dans le contraire.
Non, on a compris. Mais l'article est très évocateur et très intéressant.
Et on revient sur les pères, pardon, la communauté juive qui est extrêmement importante à Los Angeles. Alors, il y a eu une scène incroyable, c'est cet incendie, le Beit Rabat qui est resté en l'état.
Oui.
Malgré tout, on va pas se réjouir de ça. C'est très bien, mais parce qu'autour, beaucoup de gens ont perdu, c'est des 12 000, 15 000 maisons, ça va être des centaines de milliards.
Il y a eu des morts et tout.
Et des dollars, on en était à 24 morts au moment d'écrire le papier. On a interviewé, on a eu le propos rapporté du Rav Shimon Goldberg, le chaliard sur place, qui nous explique qu'une grande partie de ses fidèles, la communauté, ont perdu leur maison.
Mais oui.
Donc c'est un drame absolu. Et pardon, je dis juste un mot. Sur les réseaux sur lesquels je suis pas tellement, mais on m'a envoyé des papiers. C'est comme si, je vais pas dire que les gens se réjouissaient parce qu'ils étaient riches, mais c'est pareil. C'est la continuité de ce wokisme qui est d'un danger absolu. Les gens disaient c'est pas grave, ils sont riches. Oh, regardez à Mayotte, ils sont pauvres. Et là, on peut les plaindre. Et du coup, non, mais comme si la valeur sentimentale... Patrick Bruel qui a perdu sa maison, et c'est comme si, oh, c'est pas grave, il a de l'argent. Mais de quoi on parle ?
Et on est malheureusement
dans cette ère aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, qui rejoint aussi le papier que j'ai pu faire sur la mère Karine Bass, et qui est dramatique. Voilà, donc,
Alors, également, une page très intéressante sur l'antisémitisme expliqué à la jeunesse par Michel Vieviorca, sociologue.
Sociologue, il faut dire, de renommée mondiale.
Oui, et c'est extraordinaire. Vous l'avez écrit.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est la maison d'édition, Le Seuil, qui lui a commandé toute une série de livres. Et je trouve ça extraordinaire, puisqu'on parlait de choses didactiques, pédagogiques, etc. Et ça, c'est vraiment l'exemple. Aujourd'hui, on est dans un monde où, pour soigner l'antisémitisme, parce que c'est une maladie, les antisémites sont très malades. Et en fait, c'est tout un... Je pense qu'il y a trois générations qui sont sacrifiées, mais c'est toute une éducation. Pour moi, le mot-clé, c'est l'éducation. Et en fait, à travers ce livre-là, Michel Vieviorca revient sur 2000 ans d'antisémitisme. Donc, il revient, il explique aux jeunes... à la jeunesse, parce que c'est à eux qu'il faut...
Le mot n'a pas toujours existé, et c'est bien de remettre les choses au point historiquement, intelligemment. Et l'article est très intéressant. On n'a qu'une envie en lisant ActuJ, c'est évidemment d'acheter ce livre.
C'est le but.
Oui, exactement. Alors, Laurent Cohen-Coudard, donc un petit mot aussi sur le retour d'Idan Hamedi sur scène.
Ah, oui.
Apparemment, il a un succès fou en Israël. On rappelle que Idan Hamedi, c'est Faouda, et puis il est chanteur également.
Exactement.
Et là, tous ses concerts prévus sont pleins à craquer.
À une vitesse, c'est parti, c'est les chiffres qu'on entendait pour U2 qui remplit Stade de France.
Oui.
En 7 minutes, en quelques minutes, en fait, il a rempli, toutes les places sont parties. C'est vrai qu'il y a un cadre particulier. Tout le monde se rappelle, enfin, Idan Hamedi, donc un des acteurs, c'est pas l'acteur phare, mais un des acteurs de Fauda.
Oui.
Et donc, on l'avait vu, il est parti se battre à Gaza. Il est revenu blessé, il a été dans un état grave.
Il a été très bien soigné.
Exactement, il a été très bien soigné, il est sorti. Il revient sur scène, on parle très souvent d'un mot qui revient, et qui est le mot résilience. Et là, je crois que c'est un mot, qu'il faut absolument employer pour lui. Il est sur scène, c'est un bonheur, un plaisir de le revoir en forme et de venir chanter. Il a écrit pendant sa convalescence, il a écrit un album, donc il y aura, les répercussions de tout ce qu'il a vécu, en fait, qui seront sur cette scène. C'est magnifique,
On pourrait le faire venir en France, ce serait bien.
Je vais l'appeler.
Voilà, appelez-le, je compte sur vous. Et puis, on termine très vite la soirée du CRIF et de Charlie Hebdo à la Mutualité. Nous y étions, ça a été une très grande soirée, énormément de monde.
Et beaucoup d'émotions,
Beaucoup d'émotions.
Exactement, tout à fait, c'est important, il faut marquer le coup, j'allais dire. ne pas laisser ça de côté. Donc c'est, on a tenu évidemment à faire un papier là-dessus pour retranscrire un petit peu l'atmosphère
l'esprit, et
l'esprit
voilà.
L'esprit Charlie encore une fois, voilà, qui doit régner, continue à régner. Ouais.
Voilà, exactement. Alors actualitéjuive.com, ça c'est pour s'abonner et à lire absolument. Également, on l'a pas dit, toute une tribune sur Boualesme sans salle.
Oui, de Jacques Tarnero.
Voilà, entre autres. Et Richard Rossin, passionnant.
Un quatre mains qui est magnifique. On connaît la plume de Jacques Tarnero, qui on parle de didactique très souvent, donc c'est un parallèle aussi. Et c'est un papier parce que c'est absolument scandaleux, dramatique et scandaleux.
Oui, on est d'accord.
On est dans le deux poids deux mesures où beaucoup se manifestent sur Israël avec l'obsession qu'on connaît.
Oui.
Et Boualesme sans salle s'est laissé de côté alors que c'est.
Et puis pour en savoir plus sur Carole Ben-Zaken, peintre, il faut lire Actualité juive. Exact. Merci Laurent Cohen-Coudard. Au revoir.
Merci.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Hélène Aferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
ונקום מזה, ובמקום לפרק את הכל, בוא נצמח מזה. הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול. את בשלך, והכל הופך למסובך, לא יעשה מזה כלום. איך אני כבר לא עומד בזה, לא עומד בזה, לא עומד בזה. לאחרונה את מאחרת, לערבים שלנו יחד, ואת חוזרת היפה וכבר אין לי מושג מה לעשות. ונקום מזה, ובמקום לפרק את הכל, בוא נצמח מזה. הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול. את בשלך, והכל הופך למסובך, לא יעשה מזה כלום. איך אני כבר לא עומד בזה, לא עומד בזה, לא עומד בזה. את בשלך, והכל הופך למסובך, לא יעשה מזה כלום. ובמקום לפרק את הכל, בוא נצמח מזה. הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול. את בשלך, והכל הופך למסובך, לא יצא מזה כלום. איך אני כבר לא עומד בזה, לא עומד בזה, לא עומד בזה שוב.
רדיו ג'י,
רדיו ג'י.
Mathieu Salama, bonjour.
Bonjour Lise.
Bella Lustig, bonjour. Vini da buena, Bella.
Vini da buena. Añada dulce a todos. Con sanidad y paz en Israël.
Voilà, amen, si j'ose dire. Bella, j'ai commencé par dire bonjour en premier à notre invité, Mathieu Salama, qui vient présenter pour nous son nouvel album Nu Baroque en judéo-espagnol. C'est un événement. Je te laisse la parole.
Alors évidemment, moi j'ai un plaisir immense de recevoir un jeune et grand artiste qui est très surdoué, avec une voix très particulière que vous allez écouter tout à l'heure, et un parcours hors du commun. Vraiment. J'ai été extrêmement séduite. Alors évidemment... il a baigné dans la musique et le théâtre dans son plus jeune âge, c'est d'accord. Il a grandi en écoutant les grands interprètes de la chanson française. À 7 ans, il intègre déjà le conservatoire,
oui.
Même le conservatoire de Paris. Il s'initie alors au chant lyrique classique, au solfège, au piano, à la guitare. Enfin bref, vous avez tous les talents, vous êtes un petit génie.
C'est gentil.
Ah ben oui, franchement. Donc, et alors, évidemment, et il a des origines judéo-espagnoles.
Ah,
c'est
voilà
la raison pour laquelle on a l'immense plaisir de le recevoir aujourd'hui au studio.
Alors, quelles origines, Mathieu?
Merci. Merci, Bella, de m'avoir aussi invité. Je suis ravi d'être là avec, avec vous aujourd'hui. Et oui, j'ai des origines judéo-espagnoles. Et j'ai découvert cela il y a très peu de temps, en réalité. C'est qu'en fait, c'est venu il y a à peu près 10 ans. Une de mes élèves, Sylvie Carrois, qui prenait des cours de chant avec moi, qui d'ailleurs en prend toujours, a commencé à chanter du judo espagnol. Et j'étais emporté par cette musique, comme si j'avais été appelé par quelque chose. Je lui ai donné des conseils, je lui ai dit comment placer sa voix. J'ai chanté avec elle sans même avoir entendu du judo espagnol. Et après, j'ai fait ma petite enquête. Et là, je me suis rendu compte que mon grand-père, Samuel Salama, était judéo espagnol.
Oui, tout à fait.
Voilà.
C'est incroyable comme
de
histoire.
De quelle origine ils étaient, vos parents?
Alors, en fait, après, ils ont été au Maroc, mais judéo espagnol d'Espagne. Et ils ont
sûr
après migré au Maroc. Voilà, mes grands-parents. Et
ma tante. Jamais dit.
Et en fait, ma tante m'en avait parlé étant beaucoup plus jeune. Bon, je savais que j'avais des origines. Oui. Mais après, j'ai découvert ces textes et cette musique extraordinaire, ces berceuses, toute cette musicalité. Et j'ai été appelé vraiment par cette musique-là. Voilà, il y a à peu près maintenant 10 ans.
Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous prononcez magnifiquement, alors que je crois que vous ne parlez pas du judo.
Je ne parle pas du tout, je traduis, j'essaie de comprendre. Je travaille avec
mais
des personnes
vous
qui
vous avez une tonalité formidable hein, dans les chansons.
Mais vous aviez fait de l'espagnol ou...
Alors, je n'ai jamais fait de l'espagnol.
Non plus. D'accord.
J'ai beaucoup travaillé, mais c'est surtout assez fou, c'est que j'ai été appelé par cette musique. C'est qu'elle me parle, alors que ma culture première, c'est la musique classique, la musique baroque, la variété française et internationale.
Oui, c'est ça,
et dès que j'ai commencé à entendre cet élève à la harpe et qui a commencé à chanter ses airs, mais je me suis dit, mais je connais tout. Et il y a comme quelque chose qui m'a emporté, traversé. Et à partir de là, je me suis dit, je ne peux pas faire un album sans chanter ses airs. C'est pas possible.
C'est incroyable.
C'est merveilleux, parce que vous allez transmettre, alors que finalement... Vous ne l'avez même pas parlé chez vous.
C'est ça. Oui, c'est
quand même
fait,
très fort.
Oui, ça a passé de génération.
Voilà, exactement.
Et
c'est une transmission extraordinaire.
Inconsciente.
Inconsciente.
Transmission inconsciente.
Fait.
On peut parler de ça?
Complètement. Complètement. Pour moi, c'est
incroyable.
Ça. Et d'où il est, je suis sûr que mon grand-père est fier de ce qui se passe aujourd'hui.
J'en suis sûr. J'en suis
Alors,
sûr.
Alors, tout de même, je voulais quand même vous demander comment et à quel âge vous avez pris conscience de votre voix tellement particulière.
Alors, cette voix de tête...
Moi, ça m'a... Terriblement surpris.
Alors, une voix de tête, c'est assez complexe parce que quand on est adolescent et qu'on n'a pas encore mué, à l'école, on n'est pas... ils sont méchants, les élèves, les camarades, quand on est en 6e, 5e, quand on a une voix un peu aiguë, qu'on chante tout le temps, parce que moi, c'était mon cas, on dit, mais c'est quoi cette voix aiguë, etc. Donc, j'ai toujours chanté aiguë avec une voix de tête étant plus jeune. Et j'ai mué. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux chanter avec cette voix-là, à part un répertoire comme Starmania?
Et vous avez gardé la voix?
Bah, en fait, ma voix a changé. Moi, j'ai toujours chanté. Et,
bah, elle est restée dans les aigus.
Dans les aigus, mais en fait, d'accord, ce qui est particulier, c'est que tous les barytons, parce qu'après, on mue, et les voix basses peuvent arriver dans ce mécanisme 2 qu'on appelle voix de tête. Et en travaillant beaucoup, même après l'adolescence, on peut garder cette élasticité et cette voix de tête.
C'est quand même assez exceptionnel. Mais vos parents étaient musiciens?
Pas du tout. Pour ça, c'est un peu comme la transmission, c'est assez, assez fou aussi. C'est que mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Moi, dès l'âge de, allez, on va dire 8, 9 ans, j'ai fait du théâtre. Mes parents m'ont mis au conservatoire très jeune, à 10 ans. Et j'étais tout de suite appelé par la musique, l'art du chant. Et j'ai toujours aimé les voix. Les belles voix, les voix qui montaient, qui descendaient. Les voix aiguës aussi, surtout.
Donc, voilà. Et vous avez appris également à jouer?
Oui, mes parents m'ont mis très jeune à la guitare, au piano.
Oui, je dis, il est...
Multi-instrumentiste.
Absolument, un petit ouais génie.
Merci, merci.
Oui.
Non, mais c'est extraordinaire. Mais, vos parents n'étaient pas musiciens, d'accord, mais ils vous ont quand même poussé quand ils ont découvert que vous aviez tous ces talents.
Alors, en fait, ils m'ont poussé au tout départ à faire du théâtre.
Ah.
Et, petite anecdote rapide, quand j'ai fait du théâtre, un agent artistique est venu voir mes parents, à Livry-Argan, pour dire, faut qu'ils fassent des films, faut qu'ils fassent des téléfilms, etc. Et mes parents ont tellement eu peur. Parce que c'est pas du tout des parents qui ont l'habitude du milieu
bah oui,
du spectacle.
Ça, on a toujours un peu
ils ont
peur,
un peu peur
oui
pour leurs enfants. Ils m'ont retiré du théâtre.
Ah
pour me mettre au conservatoire de Livry-Gargan. Et là, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et cette fameuse professeure de chant, ma première professeure de chant, a appelé mes parents pour dire faut qu'ils fassent quelque chose. Et là, ils m'ont pas retiré. Ils m'ont gardé. Et moi, j'ai tellement insisté pour continuer de chanter que c'était. Moi, j'ai très jeune, je me suis dit je suis fait pour ça.
Oui, bien sûr. Mais alors, comment devient-on un grand chanteur de musique baroque? Alors ça, vraiment, ça me surprend. Parce que
alors, grand chanteur, je sais pas, mais aimer la musique baroque et chanter tous les jours de la musique baroque.
Quand même, parce que vous avez pris une orientation quand même particulière.
Complètement. Il y a eu une révélation à Venise. Alors en fait...
Comment ça s'est passé?
Alors j'ai toujours chanté de la musique classique. Et après, là, j'ai 44 ans aujourd'hui. À l'âge de 20 ans, je chantais beaucoup dans les cafés-théâtres, dans les cabarets du Aznavour, du Brassens, du Brel. Et j'ai une révélation.
Starmania aussi.
Starmania, bah oui, Balavoine. Parce qu'une de mes profs était la professeure de Balavoine.
Oui.
Cette voix extraordinaire. Et quand j'avais 30 ans, j'étais à Venise et j'ai eu un déclic avec un contre-ténor qui chantait dans la rue, donc en voix haute, Lascia Chiopianga, Laissez-moi pleurer pour me libérer de mon chagrin. C'était un air de Handel. Et dès que j'ai entendu ces 3-4 premières notes, je me suis dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait chanter comme ça.
Oui.
Donc, je ne savais pas qu'on pouvait chanter tout un morceau qu'en voix de tête. Et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé pour faire découvrir à d'autres personnes et puis même moi découvrir cette culture que je connaissais pas vraiment.
Alors Mathieu Salama, on va peut-être revenir sur l'album.
Oui.
Cet album donc avec énormément de titres en judéo-espagnol. Comment avez-vous découvert finalement le répertoire? Vous avez beaucoup travaillé dessus.
Beaucoup travaillé la langue justement.
Vous avez trouvé des partitions?
J'ai trouvé des partitions. Je fouillais les partitions. J'ai appelé ma tante Jeannick Salama qui elle avait fait beaucoup de recherches aussi. Et qui m'a expliqué un petit peu d'où je venais, d'où mon grand-père venait, comment que ça s'était passé dans l'histoire. Ça m'a passionné et j'ai pris les trois airs en écoutant tout simplement sur YouTube des morceaux. Et moi, j'ai été appelé par un morceau que je chante à tous mes récitals, c'est Adio Querida. Et quand je le chante à chaque fois...
C'est un chant mythique que tout le monde connaît.
Voilà,
c'est extraordinaire. Oui. On l'a adapté dans cet album avec mes musiciens. On a donné une signature vocale un peu différente. On a voulu mettre du théorbe, de la guitare. Et également un peu de clavecin par moment. Donc tous ces morceaux ont été adaptés aussi pour donner une petite couleur de musique baroque, puisque mes influences premières, c'est quand même aussi la musique baroque avec Handel, Vivendi. Donc j'ai adapté
aussi. Avec tout le classique.
Alors on va peut-être écouter un premier titre.
Bon, hein, d'accord.
Que vous allez nous présenter, Mathieu Salama. La Rosa en Flores.
Exactement, c'est un titre qui me parlait depuis le début.
Je prononce bien, mais...
Oui, c'est très bien.
C'est très bien. Donc on peut l'écouter, puis je peux vous en parler après.
D'accord,
avec grand plaisir.
Avec plaisir.
La Rosa en Flores. Mi alma se
Rosanne Flores, interprétée par Mathieu Salama, un extrait de son nouvel album Nu Baroque. Quelques mots très rapidement sur cette chanson emblématique.
C'est une chanson qui me transporte très très loin, parce que je commence mes récitals depuis un an maintenant avec mon ensemble, Bruno et Olivier Pellemoine. C'est deux musiciens extraordinaires qui m'accompagnent dans toute la France, notamment en Bretagne. J'ouvre et je fais découvrir à un public qui écoute beaucoup la musique baroque les airs judéo-espagnols, et j'ouvre ce récital. Bon, je vous le dis en toute intimité, je suis caché dans les salles, ça peut être les théâtres, les églises, où je chante aussi ce répertoire. Et j'arrive progressivement et le public me découvre avec la réverbe, l'écho, les matières des pierres aussi, et puis mes musiciens qui m'accompagnent avec cette reprise très intimiste. Voilà, c'est vraiment très épuré. On a mis une adaptation au théorbe et à la guitare. Et je suis accompagné aussi par une choriste extraordinaire qui s'appelle Flore.
Magnifique.
Alors, moi, je voulais quand même vous poser une question qui m'interpelle énormément. Parlez-nous quand même des Castrins et de leur influence sur votre jeune et magnifique carrière.
Oui, alors...
Ça, c'est quand même une des...
J'ai toujours été passionné par les Castrins, Farinelli. C'est tout.
Farinelli.
Voilà. Et en fait, c'est très douloureux, parce que vous saviez que les Castrins, et heureusement qu'aujourd'hui c'est terminé, quoi qu'il paraît qu'il se passe des choses encore, des familles pauvres ont castré les enfants pour leur faire chanter et qui gardent leur voix haute, justement, pour qu'ils puissent se faire connaître, et beaucoup d'opérations loupaient et les voix n'étaient pas ce qu'elles étaient. Alors, bon, ça c'est le côté très triste, mais le côté quand même très positif, c'est que c'est des voix qui peuvent aller dans les aigus, qui peuvent avoir ce qu'on appelle le contrut, les aigus, cette magie, cette pureté, cette innocence en même temps. Voilà. Et moi, ce qui m'a toujours plu dans ces voix-là, c'est qu'aujourd'hui, autant contre-ténor, j'essaye de pouvoir reproduire quelques sons, mais ce n'est pas la même chose. Hein. J'ai pas cette voix d'enfant. Moi, c'est avec cette maturité d'aujourd'hui qu'on peut quand même, malgré tout, reproduire ces voix-là. Mais moi, je suis né toujours avec cette voix très aiguë, de toute façon.
En tout cas, vous êtes quand même reconnu comme le premier contre-ténor sopraniste soliste 2010.
Oui, pour un...
C'est extraordinaire.
Moi, je suis ébahie.
Oui.
Non, c'était pour une pièce qu'on appelle La Mise à Tango de Palmerie.
Ah, voilà.
Et j'avais repris cette œuvre et j'avais chanté très, très aigu. Et aujourd'hui, ma voix, elle a un tout petit peu baissé parce que je travaille toujours cet instrument. Hein, c'est tous les jours qu'on fait ces gammes.
Ah, mais oui, j'imagine. Bah,
on
ne
voit pas, on ne fume pas.
Comme la vôtre, ça s'entretient.
Ah oui, tout le temps.
Vous êtes obligé. Bah.
Obligé de dormir 8 heures par nuit, obligé d'avoir l'hygiène derrière, c'est très important. Et c'est surtout faire
vous
très
avez
attention.
Une technique particulière.
La technique particulière, c'est la technique du bel canto, du beau chant. Et cette technique permet de chanter toute sa vie, jusqu'à pas d'âge. Parce que moi, j'ai des élèves, et je le dis, et j'en suis très fier, qui ont plus de 90 ans aujourd'hui et qui chantent encore. Et oui.
Ah oui.
Pourquoi?
Oui,
parce que
vous êtes professeur de chant.
Oui, bah bien sûr, c'est mon métier aussi, entre autres. Et l'art de la musique, j'aime tellement ça, transmettre. Aujourd'hui, je transmets beaucoup. Et j'ai cette chance aussi de pouvoir encore faire des récitals et chanter partout.
Magnifique.
Alors, vous avez un autre album qui va sortir?
Oui, alors il est déjà
sorti. Alors, vous travaillez sans relâche.
Sans relâche. Mais j'aime tellement ça. En fait, c'est un album essentiellement numérique. Donc, il n'est pas sorti en physique, parce que physique, c'est sur toutes les plateformes, qui s'appelle Vocalize, tout simplement.
Oui.
C'est humble, c'est Vocalize. Et dans ce CD, je reprends des airs du bel canto, des vacailles, et également du judéo espagnol. Il fallait absolument que je puisse faire découvrir au grand public ces œuvres, mais surtout les transformer en quelque chose de plus accessible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de chanter du judéo espagnol et qui veulent quand même travailler leur voix. Donc j'ai pris par exemple Durme Durme. C'est une berceuse judéo-espagnole.
On adore, je connais bien.
Et j'en ai pris quelques systèmes, donc dans la partition à deux systèmes, et je le répète par demi-ton pour que mes élèves, tous de 20 à 90 ans, puissent chanter et chauffer leur voix avec du judéo-espagnol.
C'est incroyable.
Est-ce que vous avez un projet pour qu'on vous écoute sur scène, par exemple?
Oui, j'ai un prochain concert au mois de février. Je peux vous donner la date.
Bien sûr.
Et qui sera à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie. Alors donc c'est à République, Paris République.
D'accord.
Et je vais vous donner la date exactement tout à l'heure.
Oui.
Très bien.
D'accord, on le réannoncera évidemment.
Parce que c'est quand même...
Et on y sera et ça va être bien sûr un très très beau concert essentiellement en judéo-espagnol.
Principalement on a des airs de musique baroque.
Oui.
Il y a également bien évidemment du judéo-espagnol et quelques surprises aussi parce que je fais des petites reprises de variétés, mais ça c'est tout nouveau.
Mais en plus vous êtes reçu un peu chez CNews dans différents médias.
Oui, pendant le Covid, j'ai fait.
Vous êtes quand même très connu, hein.
Bah merci, mais c'est.
Oui.
J'ai donné un cours de chant à Pascal.
C'est
Pascal
mérité, parce que c'est quand même.
Ah, vous avez donné un cours de chant à Pascal Pro.
Oui, en direct. On a. Oui, à plusieurs reprises lors du Covid, on m'a donné la chance de pouvoir faire chanter tous les journalistes sur le plateau. C'était génial.
Et alors, ils ont chanté?
Ils ont chanté, ils étaient très justes. Pascal, je sais qu'il adore la musique baroque, classique, et puis il a une très belle voix de baryton, oui.
Bon, et puis faites-lui aimer le judo espagnol aussi.
Avec grand
nous,
plaisir.
C'est ce qui nous oui. touche et nous
concerne. C'est formidable qu'un jeune talentueux ténor.
Ouais. Un tel enthousiasme.
Avec tant de ferveur, il puisse transmettre à la jeunesse. Enfin, ben moi, oui. pour nous, c'est vraiment un cadeau du ciel.
Oui, c'est vrai. Et c'est important. Et est-ce que les gens sont surpris lorsque vous les faites chanter en judéo-espagnol?
Alors surpris, non, parce qu'ils me disent tous ceux qui ne connaissent pas ces chants, cette culture, cette langue, qu'est-ce que c'est beau, on est transportés. Mais tous, et ça me fait tellement plaisir, parce qu'ils me disent souvent, on ne connaît pas, mais on n'aime pas, on est emportés. Et c'est comme si c'était une mission, finalement, quand ils me disent ça, je suis tellement content, et c'est pour ça que j'en ai mis dans mes albums.
Bien sûr.
Oui, parce que même dans notre monde judéo-espagnol, beaucoup de... on rencontre des gens, c'est judéo espagnol, c'est quoi? Ben même oui. dans le monde juif.
Oui, c'est vrai, le judéo est moins connu. Oui.
Absolument.
Et justement, Bella, tu es là depuis toujours pour transmettre et pour expliquer. Essaie. C'est pour ça aussi que notre émission El Mundo Muestro est si importante.
Depuis 1998.
Mais oui,
tout de même.
Mais oui. Alors, je voulais juste dire qu'entre-temps, on a retrouvé l'horaire du concert de Mathieu Salama, samedi 8 février à 16h, à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie, 195 rue du Temple. C'est juste au métro République. On descend la rue du Temple et c'est à droite, en face du Monoprix. Je
Exactement,
peux pas dire mieux.
C'est ça.
Je connais.
Tu connais.
Alors, bah, faut-il oui. réserver comment?
Oui, alors, ils peuvent réserver sur mon site. Ils tapent Mathieu Salama sur Internet.
On réserve directement.
Voilà, ils peuvent réserver via mon site Internet, sans problème.
Bon, ben voilà. Ça, c'est formidable.
Écoutez, Mathieu, on vous souhaite un maximum de projets
Merci.
De cet ordre-là.
Et un grand succès, mérité.
Voilà,
parce que...
mérité. Bella et moi, on sera ravis de vous recevoir.
Je suis subjuguée par votre
fois.
Voix.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, quand vous voulez.
Alors, ça fait une transition directe, parce qu'on va terminer cette jolie émission avec un extrait de l'album de Mathieu.
Oui, voilà.
Voilà, présentez-le.
Exactement, donc c'est mon nouvel album qui est sorti le 24 décembre, qui s'appelle tout simplement Vocalise, que vous pouvez retrouver partout sur les plateformes de téléchargement. Et pour finir cette émission, je vous propose d'interpréter Durme Durme, que vous pouvez même chez vous chanter. Si vous ne connaissez la musique judéo-espagnole, chantez. Si vous ne connaissez pas, c'est simple, il suffit juste d'écouter ce CD. Il y a un passage instrumental, chanté, donc c'est des vocalises. On écoute ça comme... c'est un CD qu'on peut écouter comme un CD normal ou également un CD où vous pouvez vous apprendre à chanter ou pour c'est des incroyable. Professionnels chanter. Voilà.
Génial. Ah oui, je vais apprendre à chanter.
Allez, on essaie tous ensemble.
Voilà. Alors nous, on essaie. Notre collectif, on l'a dans notre programme.
Mais
justement.
Bien sûr.
Et on va s'inspirer de la façon dont vous chantez.
Avec voilà. plaisir.
C'est autre chose.
Que de projets judéo-espagnols. Voilà. Bella Lustig, on se retrouve dans
bon
un mois.
Amen.
Et Mathieu Salama, le 8
Merci
février
Merci à vous.
Pour votre venu, hein. concert. Merci. Merci, à bientôt.
À bientôt.
À Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי שכחתי מעצמי ודי הייתי לא הייתי אני אסגור מאחורי גבי שוב לא יוכל לגעת בי בתהומות ליבי טעיתי לא הייתי אני שבפניי הרקנות שוב לא תכה המציאות שתחכה שוב לא אבכה שאתנחם מעט ואת אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק במי את מתאהבת את מי לא עוזבת אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת ושוב הולך אותה העיר אותם פנים אני מכיר את הריחות שבאוויר טעיתי לא ראיתי אותך כולן דומות פתאום יותר כל שיר עושה ללהיזכר מכל צלצול הלב עוצר נגעתי לא הרגשתי אותך ולעולם שוב לא רוצה להתאהב אהבה שתרכב הרגישות שתשרף לאט ואת מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע מי לא עוזבת אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת ואת במי את נוגעת לאט במי את פוגעת כמעט כמו את שפצעת בי את כל העולם את גילית ולעד שהוא מאושר שיש לו אותך לא מכאיב לך בך לא פוגע הייתי כזה אם הייתי יודע
Et le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.